Et alors que les Sfaradim du sud de la France, c'est des Espagnols et des Portugais, surtout. Oui. Nahon, par exemple, Thibonite. Et il y avait une petite communauté, qui étaient les quatre communautés autour d'Avignon, les Juifs du Pape, là, comme on les appelait, qui n'étaient ni Portugais, ni ils étaient Français du Sud. Alors ça, c'était les Sfaradim Français du Sud. Mais ce n'était pas les Sfaradim. J'ai eu entre les mains leur marzourine. Ça ressemble au marzour Sfarad, mais c'est spécial. C'est le rite d'Avignon, le rite de Carpentras, il y en a deux autres dont j'ai vu, non ? Lunéville, non pas Lunéville. Lunel, mais il était d'où Lunel ? Narbonne. Donc, alors vous voyez qu'en fait, il a existé une entité du Jaïm Tsarfati. Et la grande école, c'est l'école de Rachid, bien entendu. Seulement, encore une fois, c'est un rite spécifique, beaucoup plus proche du rite ashkénaze, encore que du rite sfarade, mais qui était très spécifique. Les maîtres de Rachid, certains des maîtres de Rachid, ont été des ashkénazim, comme Rabbeinu Gershom, mais d'autres ont été des sfaradim du Sud, comme Rabbi Moshe Adarshan, qui était de Narbonne, qui était un des maîtres de Rachid.
C'est Narbonne qui a la plus belle musée de Narbonne.
Il y a d'ailleurs la grande lignée des rabbins qu'on appelle les Narbonnites. Ce nom-là, ça doit vous être familier, Narbonne. C'était le grand rabbin de Narbonne. Pardon ?
Au Moyen-Orient, ça.
Là aussi, dans le nord d'Israël. C'est une petite ville.
Vers le Liban ?
Ah, à peu près.
Mais d'ailleurs, je crois. Il y a des gens qui pensent qu'il y avait déjà des juifs quand Marseille s'est postée avant la destruction du désert.
C'est exact. Il y a même une tradition que la communauté de Lyon a été fondée par Rabbi Meir.
Par
Rabbi Meir lui-même, il y a une tradition. Il a dû rencontrer là-bas l'enchanteur Merlin. Et alors la rencontre, c'était Merlin a dit enchanté, et Meir a dit ravi.
Mais ça, il
n'existe
plus maintenant le site de cette ancienne petite ville.
Il y a des petites localités du Liban qui ont gardé des noms qui ressemblent. Mais alors, c'est...
Ah oui, on ne sait plus exactement.
Mais je crois, j'ai utilisé ça avec le Rafouk, c'est l'identification des pays. De la diaspora actuelle, c'est faite par une sorte d'inspiration prophétique d'analogie. En arrivant chez les Français, on dit « Ah, ça c'est le Tsarfatim. » Comme vous avez dit, d'accord ? En arrivant chez les Espagnols, ah, ça c'est le Sfaradim. Alors c'est un nom second. Mais en tout cas, étymologiquement, les Ashkenazim d'origine, c'est des Juifs, les Judéo-Allemands. Et les Sfaradim d'origine, c'est les Judéo-Espagnols. Et les autres ont adopté leur rite. Je vous dirais, très schématiquement, tous les Juifs de l'Empire chrétien ont adopté le rite ashkénaze parce que la communauté ashkénaze c'est le rite sfarad parce que c'est la communauté sfarad qui était la plus proche, la plus forte, ce sera pas la plus forte. Mais du point de vue ethnique, madame a raison, et elle est sfaradim étymologique, c'est les judéo-espagnols, c'est évident. C'est clair, madame.
Et la
carte du Ah oui, là, le séminaire, ben, j'ai apporté mon yomal. Et j'avais à vous dire, c'est en décembre. Alors, sous toute réserve, ben, je pense que c'est comme ça que ça sera. Je crois que ça commence le 11 décembre. Oui, ça commence. C'est le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15 décembre. Retenez cela pour mémoire. Voilà. Maintenant, ce n'est pas le sujet qui est épuisé, je vous avoue que c'est moi. Et alors, on va se dire Shabbat Shalom s'il n'y a rien de.
Est-ce que c'est quand même pas une sorte de prédestination ?
Non, ça veut dire la Torah nous décrit les efforts de cet engendrement et à un certain stade, il y a impasse. Ça, nous l'avons étudié dans l'enseignement.
Oui, c'est, mais enfin, c'est quand même, l'enfant est quand même marqué, alors que là, plus tard, avec l'enfant de Yehuda, oui. C'est peut-être parce que ça s'est décanté.
Je ne sais pas comment exprimer ça, c'est que il y a des familles où vous avez, semble-t-il, héréditairement, des enfants qui représentent les mêmes caractéristiques à différentes générations. On connaît l'oncle et le neveu. Et puis, soit ça s'aggrave, soit au contraire, ça se transfigure. C'est un peu ça que vous voulez dire. Hein. Il y a une manière d'enfanter la même personne qui a une génération différente est une réussite ou un échec. Mais c'est la même personne, le gendre qui est enfanté.
Et les anges, est-ce qu'il faudrait que j'attende le nez?
Pourquoi pas? Si on est là, c'est je voudrais vous donner la référence précise. Mais j'ai noté et vous me laisserez votre adresse, je vous envoie un télégramme. Attends, mais je n'ai pas dit qu'il n'est pas une religion, elle est aussi une religion. Je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit.
En fait, c'est une nature que d'être juif.
Une nature, je ne sais pas si c'est le mot, c'est une manière d'être.
C'est un besoin de ressentir, de s'éveiller juif. En fait, ce que je veux dire, c'est que si...
J'écoute. Oui.
Dans ces cas-là, si toutes ces personnes, ces quatre, le papa, le mental, le rachat, entre le rachat et celui qui ne dépasse pas de toutes ces questions, s'engagent dans des voies autres que le judaïsme,
oui.
Étant donné qu'ils sont quand même juifs de nature, est-ce que finalement, à la fin des temps, ils vont pas revenir?
Attendez, à l'échelle de leur vie individuelle, ils sont juifs jusqu'à la mort. Non, maintenant, il s'agit de qu'est-ce que va devenir la descendance. Voilà, c'est le mystère des réalités. Dans leur descendance, il peut y avoir des étincelles d'âmes juives qui reviennent. Et nous en avons exemple dans...
Ça veut dire que la finale de Pessah, elle y ramènera pas?
Le résultat d'un tri, c'est la notion du reste, chérie. Ce qui restera du tri, mais la gueule ultime, elle concerne pas seulement Israël, mais l'humanité entière. Alors comment ça se passera, la régularisation d'Israël, Israël et nation, déjà je le sais. Mais on sent déjà que ça commence. Je vais vous dire une chose. Beaucoup de juifs contemporains, en particulier israéliens, sont en mission dans beaucoup de pays du monde, pas l'Occident, mais aucune idée à quel point l'identité juive est reliée aux nations de l'Orient, de l'Afrique, et qu'il y a ce même problème avec les hommes de l'Asie et de l'Afrique, et pas seulement avec eux. Vous pensez peut-être aux Occidentaux, juste assimilés en Occident, mais aucune idée des tribus qui travaillent là-bas, en Afrique et en Asie, hébraïques d'origine. Mais j'ai rencontré des personnages qui sont ahurissants, qui sont persuadés, ils étaient clandestins pendant des milliers d'années, qu'ils sont descendants des Hébreux, des Asiatiques ou des Africains. Alors, allez démêler la légende de la réalité, mais s'ils demandent la conversion, alors ils deviennent juifs, plus. Je sais pas comment dire.
Vous comprenez ?
C'est plein de légendes, tout ça, mais et voilà, ça se dévoile. Okay.
Je vous dis, oui.
Parce que vous ramenez l'identité juive avec l'identité religieuse, et un chrétien parle du peuple chrétien. Mais depuis très longtemps, c'est devenu une figure de style mystique. En réalité, un chrétien, c'est ou un Italien chrétien, ou un Français chrétien, ou un Suisse chrétien. Alors pour un juif, c'est la même chose. Un juif, c'est un juif juif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le premier mot juif, ça veut dire hébreu. Le deuxième mot, ça veut dire sa religion. L'image que dans le Midrash, c'est chaque terroir a ses arbres. On peut transporter un arbre n'importe où, mais un arbre en serre et un arbre dans son jardin, c'est pas la même chose. Voilà, c'est une image de judaïsme d'ailleurs. Hein? Alors nous avons été transplantés pendant 2000 ans, et je vous garantis que quand on se replante en Israël, l'arbre change d'allure. Ici, il est planté, comme on dit en français.
Est-ce que c'est pas général? Est-ce que contre les gens, contre la véhicule
d'une certaine culture? Culture, on parle d'identité nationale. À l'origine, il faudrait pour tous. Alors, je te réponds. Aujourd'hui, les religions modernes en Occident sont des religions confessionnelles. Et c'est une identification religieuse spirituelle qui n'a plus rien à voir avec l'identité nationale. Le judaïsme, c'est les deux à la fois. Alors le drame, c'est pour les juifs de diaspora, c'est plus pour les juifs d'Israël. Est-ce que vous comprenez le problème? Alors,
non.
Comment?
Est-ce qu'au-delà de l'identification spirituelle ou nationale, ce qui n'est pas décisif, c'est la langue dans laquelle un catholique polonais, qui prie en polonais, est-ce que c'est comparable à...
C'est pourquoi c'est un drame. C'est pourquoi je pense que c'est un drame pour l'Église d'avoir abandonné le latin. C'est un drame. Je ne sais pas où ça ira. Ça ne veut pas dire que si j'étais chrétien, je serais intégré, j'en sais rien. Mais moi, j'ai ressenti en tant que juif, je sais qu'on a eu des problèmes avec la messe en latin qui adoptait l'hébreu en latin, lorsque l'Église catholique abandonne la terre, j'ai senti ça comme une, comment disait Roski, blessure narcissique chez les chrétiens. Et je le sentis en tant que juif. Mais ils ont gardé quelques mots latins, c'est les mots hébreux qu'il y avait dans le latin. Amen, alléluia.
Alléluia.
C'est déjà pas mal. Non, j'ai ressenti ça comme une perte pour l'Église. Je ne sais pas ce qu'un chrétien en dirait, mais quel.
Parce que la vie avec la femme de l'Église, je parlais, il m'a dit, mais en allant en Israël, ils ont refusé de participer à la construction de l'Église.
C'est l'inverse.
Je sais, mais.
C'est l'inverse. Je vais vous dire pourquoi, c'est un autre sujet. Tant qu'on n'était pas en Israël, dans la diaspora, nous étions des cosmopolites. En Israël, nous sommes une des nations de l'humanité. C'est très différent. Et je vous garantis, j'ai parlé des congrès internationaux. Quand les savants du monde entier, de toutes les disciplines, viennent se renseigner sur les méthodes israéliennes, eh bien, ils n'ont pas du tout conscience qu'ils sont chez les juifs, ils sont chez les hébreux. Et tous ces hébreux-là sont juifs. Et d'ailleurs, les trois quarts des invités sont juifs aussi. Je ne sais pas si vous rendez vous. C'est très frappant, les congrès de psychiatres ou de gynécologues à Jérusalem. Bon, il y a un dixième, c'est des Israéliens, les neuf dixièmes, c'est des non-israéliens, mais parmi les neuf dixièmes, la moitié, c'est des juifs. Vous avez compris ce que vous dites ?
C'est pas par hasard.
C'est pas par hasard, c'est du tourisme organisé pour faire entrer les devises en Israël. C'est vrai, c'est vrai aussi.
C'est pas par hasard que ce soit des juifs, c'est
oui, c'est vrai aussi. Mais j'ai eu un exemple à un dernier congrès de médecins le mois dernier en Israël que des juifs de l'étranger n'ont pas voulu venir parce que c'était Israël. Ils ont été remplacés par des goïmes. Oui, il y a tout partout. Mais je vous dis, j'en ai parlé hier soir à la cérémonie de Mireille Chevaïm, je vous le répète vraiment très très. On ne peut pas comprendre ça avec des mots. C'est une mutation d'identité qu'il faut vivre. Peut-être je peux vous donner les images. Quand un juif en Israël se sent chez lui dans l'autobus, c'est qu'il est déjà Israël. Vous avez compris ce que je veux dire ? Dans l'autobus. Et ça, il faut le vivre. Ça ne se raconte pas avec des mots. Et les petits-enfants israéliens n'arrivent pas à le faire comprendre à leur grand-mère juive. Elle le sent, mais elle ne comprend pas. Et est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Mais je crois que les goïmes le voient beaucoup plus rapidement que lui, que les juifs. Vous pourrez voir, il ne s'attrape pas. Je vais raconter le consul de France. Okay. Un consul de France ne parle pas de la même manière à un Israélien qui parle à un juif aux affaires étrangères. Est-ce que c'est clair ? Alors, comme ça nous arrive au bout de 2000 ans, c'est un choc tel que la mutation, elle est à un niveau très différent pour chacun. Il faut beaucoup de patience. Et dans l'impatience, si je dis. Et moi, j'ai bien conscience, je reviens en France et en Europe et. Depuis plus de 20 ans, 3 ou 4 fois par an, et je vois à quel point ça change radicalement. La communauté juive en France n'est plus la même qu'il y a 20 ans, mais plus la même. En Israël aussi. Et alors, je vais vous dire un peu mon impression, Paris c'est une très belle ville pour un touriste. Et surtout quand il parle français. Il n'a aucune idée de l'expérience d'un touriste à Paris, dont c'est la langue aussi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que vous dites. Hein. Et vraiment, on n'a aucune idée à quel point Paris est une belle ville. Mais c'est pas la mienne. C'est clair. Donc, alors, à bientôt. Shabbat shalom.